Bamako, 22h à Alger et minuit à Djouba. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec la revendication de l'attaque contre des militaires algériens en Kabylie par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous évoquerons ensuite le rapport de Freedom House, publié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, demain, samedi 3 mai. En page culture, nous évoquerons l'Afrique plurielle, thématique du Salon africain du livre et de la presse qui a lieu à Genève jusqu'au 4 mai. Enfin, rubrique santé, l'OMS s'inquiète de la résistance aux antibiotiques. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver pour ce dernier condensé des nouvelles qui font la une dans le monde en ce vendredi 2 mai 2014. En Ukraine, 38 personnes ont péri dans un incendie qui a ravagé un immeuble à Odessa, ville portuaire essentiellement russophone dans le sud du pays, à la suite d'affrontements qui ont opposé aujourd'hui des partisans de l'unité de l'Ukraine et des militants pro-russes. Il y a eu également des accrochages aujourd'hui autour d'une ville tenue par les rebelles dans l'Est, où les forces gouvernementales ont entamé une opération contre les séparatistes pro-russes. Dans la capitale américaine, Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont menacé la Russie de nouvelles sanctions qui viseraient directement certains secteurs économiques en cas de dégradation de la situation en Ukraine. Le président américain a mis en garde Moscou si les élections du 25 mai venaient à être perturbées. Les autorités sanitaires américaines ont confirmé aujourd'hui le premier cas d'infection avec le coronavirus MERS aux États-Unis. La personne infectée, qui travaille dans des services médicaux, a récemment voyagé en Arabie Saoudite et est actuellement hospitalisée dans l'Indiana, où elle est en isolation, a indiqué le docteur Anne Chouchat, directrice du Centre national d'immunisation des CDC, les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies. L'état de cette personne est stable, mais le cas est en train d'évoluer très rapidement. D'après le docteur Chouchat, les autorités sanitaires tentent encore d'identifier les personnes avec lesquelles le malade a été en contact. Selon l'OMS, le coronavirus MERS a fait 93 morts, essentiellement en Arabie Saoudite, où il est apparu en 2012. L'Américain Tyson Gay, suspendu un an pour dopage. En effet, l'agence américaine antidopage a annoncé aujourd'hui qu'elle avait infligé cette suspension d'un an au triple champion du monde 2007. Tyson Gay avait été contrôlé positif en juin 2013 dans le cadre des championnats américains d'athlétisme.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Tournée africaine du secrétaire d'État américain, visite surprise aujourd'hui de John Kerry à Djouba, la capitale sud-soudanaise. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé avoir obtenu l'accord du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, pour l'ouverture de négociations directes avec le chef de la rébellion, Riek Machar, au sujet de l'application d'un cessez-le-feu et de la formation d'un gouvernement de transition. La communauté internationale a tiré la sonnette d'alarme sur les atrocités et crimes de guerre commis par les forces gouvernementales et rebelles. Des milliers de personnes ont déjà péri et au moins 1,2 million de personnes ont fui leur foyer. Les organisations humanitaires ont par ailleurs prévenu que le pays était menacé par la pire famine que l'Afrique ait connue depuis les années 1980. En République centrafricaine, un employé local du Haut Commissariat pour les réfugiés a été tué après son enlèvement hier dans le quartier PK16 de Bangui, la capitale. Selon le HCR, les auteurs appartiendraient à la milice anti-Balaka, mais les enquêteurs tentent encore de faire la lumière sur la mort de cet employé. Dans un communiqué, le HCR affirme que l'incident serait lié à la violence intercommunautaire qui déchire la Centrafrique. RCA encore. Catherine Samba-Panza fête aujourd'hui ses 100 jours à la tête du pays. La présidente de la transition a prononcé un discours à Bouar pour l'occasion. Attentat à la voiture piégée dans la capitale du Nigeria, on compte au moins 18 morts et des dizaines de blessés. L'explosion a eu lieu dans une gare routière dans la banlieue d'Abuja. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée, mais elle s'est produite à proximité des lieux d'un précédent attentat signé Boko Haram le 14 avril. Cette organisation terroriste qui lutte pour la mise en place d'un État islamique a fait des milliers de victimes au cours des 5 dernières années. Les autorités libyennes ont fait état de 5 soldats et d'un policier tués dans l'attaque aujourd'hui d'un complexe gouvernemental à Benghazi. Au moins 11 autres personnes ont été blessées dans des heurts entre les forces spéciales de l'armée et un groupe armé. Très tôt ce matin, ce groupe avait pris d'assaut le commissariat de police de Benghazi. L'armée a repoussé l'attaque et des heurts violents ont suivi dans plusieurs quartiers de la ville.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons donc l'émission avec la revendication d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, concernant l'attaque contre des militaires algériens en Kabylie le 19 avril dernier. 11 soldats algériens avaient été tués ainsi que 3 des assaillants. L'attaque a été menée 2 jours après la présidentielle du 17 avril contre des soldats qui devaient assurer la sécurité du scrutin. Idriss Fall a joint Ali Zawi, spécialiste des questions de sécurité à Alger.
Ce n'est pas le premier attentat en Kabylie. Cet acte condamnable qui a touché 11 militaires dans une zone très sensible, dangereuse, montagneuse, qui relie le QG des 3 wilayas, qui abrite encore les groupes terroristes qui sont encore actifs. On peut dire que la présence persiste et la présence du terrorisme dans ces endroits. Il y a un soutien énorme des gens du MAC qui se prétendent encore opposition contre le régime algérien.
Mais est-ce qu'on sait où se trouve Abdelmalek Droukdel, qui est le patron d'ACMI?
Tout le monde en parle de Droukdel. Le problème, ce n'est pas Droukdel. Le problème, c'est ces terroristes qui sont inconnus. Parce que pour Droukdel, il est là quelque part, soutenu par des gens crépusculaires de la région.
Mais l'Algérie a été l'un des premiers pays à avoir subi le terrorisme dans les années 90. On a parlé de 300 000 morts. Mais après autant d'années, est-ce que vous pensez que l'Algérie a fait des progrès dans le combat contre le terrorisme?
Bien sûr, c'est visible ce qui se passe maintenant. C'est rien, on sait très bien que le terrorisme en Algérie a disparu, mais il reste quelques crépuscules qui sont encore dangereux. Et on sait très bien que des années 90, le terrorisme faisait la loi. Ce qui s'est passé actuellement à Tizi Ouzou, c'est 10 fois rien ce qui s'est passé avant.
Mokhtar Belmokhtar, alias le Borgne, le patron du groupe Les Signataires par le Sang, il fait reparler de lui, il fait encore allégeance à Al-Zawahiri. Pourquoi maintenant?
Parce qu'on a certaines informations qui circulent, que l'un des chefs d'Al-Qaïda se trouve actuellement en Libye. Que l'un des chefs d'Al-Qaïda se trouve actuellement à Dana. Et Belmokhtar actuellement se trouve en Libye. Que la Libye, on ne parle pas de la suite du régime libyen, mais aussi on parle de la suite d'un État complet. En quelque sorte, la Libye sans gouvernance. Et aujourd'hui, on craint le pire. En fait, on craint que le départ d'Al-Qaïda à partir aujourd'hui, c'est depuis l'Afghanistan. Mais maintenant, c'est la Libye, le centre, le QG principal de l'Al-Qaïda en Afrique.
Ça peut être dangereux pour toute la région, ça.
La région et même le Moyen-Orient. À partir de la Libye, avec la libre circulation de 75 millions de pièces d'armes. Ne pas comparaître la situation qui a traversé l'Algérie durant les années 90, où elle était seule contre tous. Ce n'est qu'après le 11 septembre 2001 que tout le monde a ouvert les yeux que le danger pas avec le terrorisme.
Quand même, John Kerry est venu, si j'ose dire, passer les plaies. John Kerry est venu à Alger quand même vous soutenir, non?
Écoutez, on pense bien que John Kerry, il est venu pour 2 choses. La stabilité de l'Algérie en premier lieu et la situation dramatique en Libye qui inquiète tout le monde après la chute du régime libyen et aujourd'hui, c'est la chute de la Libye carrément. Et que la menace provient de la Libye, surtout pour l'Égypte, ce qui se passe actuellement en Égypte. Et l'Égypte, c'est pas encore sans sortie de ce qui se passe. Nous risquons de voir les jours très sanglants en Égypte.
Ali Zawi, spécialiste des questions de sécurité à Alger. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102 FM, notre fréquence à Bamako. Notre dossier est consacré aujourd'hui à la liberté de la presse et la liberté d'expression. En prélude du 3 mai, la journée mondiale sur la liberté de la presse, Freedom House a publié aujourd'hui son rapport 2014. D'après cette ONG, la liberté de la presse est à son niveau le plus bas depuis plus d'une décennie. Les explications de Camille Grosdidier.
Le constat dressé par Freedom House dans son rapport sur la liberté de la presse est sombre. Elle a perdu tellement de terrain en 2013 qu'une seule personne sur six à travers le monde avait accès à des médias qualifiés de libres. Karine Karlekar de Freedom House.
We see attempts to control or manipulate the message.
On voit des tentatives pour contrôler ou manipuler l'information, donc l'utilisation accrue de la propagande et des tentatives pour influencer le contenu à l'avance. Elle ajoute que les blogueurs ou ceux qui utilisent le web pour disséminer l'information sont harcelés. Dans de nombreuses régions, les gouvernements bénéficient de la complicité des propriétaires des médias. On assiste à des changements dans les directions qui sont suivis de pression sur les journalistes. En bas du tableau, la Corée du Nord est la plus mal classée sur 197 pays. L'Irak n'est pas loin, ainsi que la Syrie. Selon Freedom House, c'est au Proche-Orient que la presse aurait le plus souffert, à commencer par l'Égypte où le régime soutenu par l'armée a sévi contre les journalistes. Seulement 2% de la population du Proche-Orient a accès à des médias libres. Toujours selon Freedom House, la situation est encore pire en Europe de l'Est, notamment en Russie, où des reporters ont été incarcérés, battus ou tués. Et en Ukraine, la presse a été brutalement ciblée durant les manifestations. Les États-Unis ne sont pas épargnés par le rapport de Freedom House. L'administration Obama est accusée d'avoir harcelé des journalistes, notamment en rapport avec des questions de sécurité nationale. À preuve, les poursuites engagées contre un reporter du New York Times et un journaliste de l'Associated Press. La Journée internationale de la liberté de la presse sera célébrée samedi prochain.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 102.5 FM à Ségou, au Mali, sur la radio Tondjon. Direction Genève maintenant pour notre page culture, pour parler du Salon africain du livre, de la presse et de la culture. Pour sa 11e édition, ce salon littéraire a choisi de mettre en avant la diversité africaine. Pascal Kramer est l'organisatrice de ce salon africain.
C'est vrai que l'Afrique, encore hélas en Europe, s'est perçue comme un pays. Une Afrique, on a l'impression un peu que c'est voilà que c'est un seul pays, alors que quel continent divers il y a en termes de langue. Il y a vraiment tant et tant d'Afrique, et c'est toutes ces Afriques-là qu'on avait envie de mettre en scène. Et puis aussi d'autres, par exemple, il y a un thème qui a beaucoup émergé ces derniers temps, qui est celui de l'homosexualité. On a toujours cru que l'Afrique était homophobe. Maintenant, beaucoup d'auteurs font leur coming out. Et donc, c'est aussi un thème, et donc c'est aussi une des autres facettes de l'Afrique.
Alors, vous êtes la programmatrice de ce salon. Quelles sont vos têtes d'affiche cette année ?
Alors, cette année, on a un autre vedette, et ça, je suis tellement heureuse qu'on ait pu le faire venir. C'est un monsieur de 86 ans, même s'il ne les fait absolument pas. C'est Cheikh Hamidou Kane, qui est un auteur donc sénégalais, qui a acquis une notoriété mondiale en un seul livre, L'aventure ambiguë. Il en a réécrit un plus tard. Mais c'est vraiment l'aventure ambiguë qui a marqué les esprits, qui a enseigné dans des quantités de pays. C'est un grand monsieur, brillantissime. Et donc, moi, j'avais vraiment à cœur de le faire venir parce que ce livre a vraiment, ça fait partie des livres qui ont vraiment marqué ma conscience du monde, je dirais. Et donc, il a accepté de venir. Donc ça, c'est vraiment notre tête d'affiche. On a deux autres Sénégalais. C'est vrai qu'on a une édition très sénégalaise. Boubacar Boris Diop, qui est un formidable auteur, essayiste, parle beaucoup de politique. Il y a Souleymane Bachir Diaye, qui enseigne aux États-Unis mais qui est aussi sénégalais et qui est philosophe. Nous avons aussi des Camerounais. Nous avons Mutt Lange, qui est un tout jeune auteur qui vient pour la première fois du continent. Il y a Scholastic Mugasonga, de la Rwandaise, qui s'est exprimée tout à l'heure donc à l'occasion des 20 ans du Rwanda. On a aussi un Ghanéen, Nia Parkes, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle « Notre quelque part ». Et puis on rend hommage aussi à la littérature nigériane avec deux livres de Chinua Achebe qui sont retraduits en français. Donc il y a le traducteur qui sera là et des auteurs qui vont lui rendre hommage. Et puis aussi, dans les derniers thèmes importants, il y a Chikaya Utamsi. Ses œuvres complètes sont rééditées chez Gallimard, d'ailleurs à l'initiative de mon coéquipier Boniface Mongoubousa. Et donc on va faire une table ronde aussi sur Chikaya Utamsi et encore dans les Nigérians. Et ensuite, j'arrête ma liste. Nous avons Elon Abila, qui est donc un des auteurs de la nouvelle génération nigériane qui vraiment grimpe. Et donc, nous avons le plaisir aussi d'avoir deux tables rondes en anglais samedi et dimanche.
Pascale Kramer, organisatrice du Salon africain du livre de la presse et de la culture de Genève. Rubrique santé maintenant pour finir l'émission. La résistance aux antibiotiques est à l'échelle mondiale une grave menace de santé publique, affirme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Dans un rapport publié à Genève et portant sur 114 pays, l'OMS avertit que cette menace n'est plus seulement une prévision, mais bien une réalité à travers le monde. Camille Grosdidier a joint le docteur Carmen Pessoa da Silva de l'OMS.
L'OMS, pour la première fois, a développé ces rapports d'une façon très complète, dans le sens où on a contacté les pays membres de l'OMS et on a réussi à avoir des données provenant des 114 pays. Et ceci fait que ces rapports est le plus complet jamais publié à propos de la résistance antimicrobienne, surtout à propos de la résistance antimicrobienne qui concerne les bactéries résistantes.
Vous avez documenté la résistance aux antibiotiques de 7 bactéries différentes?
Exactement. Ce rapport, en fait, malgré qu'il touche aussi d'autres types de germes qui causent des infections, comme aussi des parasites comme cause la malaria, les virus comme HIV, influenza. Ce rapport-là, il fait vraiment un focus sur 7 bactéries. Et ces 7 bactéries, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 7 bactéries? Parce qu'elles sont justement les bactéries qui causent des infections chez l'humain, soit dans la communauté, soit aussi des infections dans le milieu hospitalier.
Et là, on parle d'infections hématologiques comme la septicémie ou encore les diarrhées, les pneumonies, les infections par voie urinaire ou encore la gonorrhée.
Oui, tout à fait. Il faut rappeler qu'actuellement, il est estimé qu'il y a 1 million de cas par an de gonorrhée. Hein. Aussi des pneumonies, on parle aussi des infections comme le septicémie. Donc, on parle là des infections qui sont très fréquentes, soit dans la communauté, soit dans le milieu hospitalier.
Les mesures prises par les pays pour lutter contre cette résistance aux antibiotiques sont jugées insuffisantes par l'Organisation mondiale de la santé.
Je pense qu'il faut dire tout d'abord qu'il y a plusieurs pays qui, depuis plusieurs années, ont une politique d'augmentation de la capacité pour monitorer la situation de la résistance antimicrobienne, mais également augmentation de la capacité pour contrôler la dissémination, pour améliorer les conditions de prévention et contrôle de l'infection, soit dans la communauté, soit au milieu hospitalier, et aussi amélioration de l'utilisation des antibiotiques. Donc ça, je dirais que depuis des années, il y a plusieurs pays qui font cet effort, et de plus en plus, il y a aussi d'autres pays, même s'ils ne sont pas si avancés à propos des capacités pour monitorer les problèmes et les contrôler. Aussi, d'une façon globale, tous les pays sont de plus en plus préoccupés avec ces problèmes-là.
Le docteur Carmen Pessoa da Silva, de l'Organisation mondiale de la santé. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la console, Joselle Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le Cap-Verdien Zé Luis et son morceau Amigo. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous. É que se excusa ser feito sem ser nada. Quem se quer te iludir, está pra garrafa. Satisfaz a ilusão, não pegar violão, não entrar na roda, não
fazer nos rachão. Não pega violão, não entana rol, não fazer nos rachão. Embora, e esta flor, mas de nós está demais. Nunca tá falta nada de lamboia, até de escrever, brincar no condomínio, que não importa, no divertir, no passar nos tempos. Embora, e esta flor, mas de nós está demais.